Pourtant, les uns et les autres, nous vivons le même événement. Et c'est la raison pour laquelle, pour préparer les orthodoxes, mais aussi pour rappeler à nos frères occidentaux tout le sens pascal, nous allons essayer ensemble de commémorer, d'étudier, d'entrer dans toute la célébration de la Semaine Sainte en vous proposant les diverses étapes que vivent les orthodoxes à l'occasion de cet événement. La Semaine Sainte commence par l'annonce d'un éclatant miracle. C'est comme ça que nous entrons dans les solennités de ces jours qui nous amènent à Pâques. Et il s'agit du samedi qui précède les rameaux et que nous appelons le samedi du Saint et juste Lazare, puisque vous savez que Lazare a été ressuscité des morts. L'office de ce samedi du juste Lazare comporte quelques-unes déjà des particularités de l'office pascal lui-même, parce qu'il préfigure ce que sera la propre résurrection de Jésus. Cette célébration du samedi du juste Lazare nous annonce la grande joie qui suivra après la passion et la crucifixion, et qui est bien entendu Pâques. Mais aussi, par cet office, nous voyons ce que sera notre propre résurrection une fois rachetée par le sacrifice du Christ. Et ce jour-là, nous chantons le texte suivant. « Voulant, avant ta passion, fonder notre foi en la commune résurrection, tu as ressuscité Lazare d'entre les morts, Christ Dieu. C'est pourquoi, comme les enfants d'alors, nous portons les symboles de la victoire et te chantons à toi, vainqueur de la mort, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et puis, aujourd'hui, ce matin, pour nous les orthodoxes, c'est le jour des rameaux. Ce jour-là, nous chantons ceci. Ensevelis avec toi par le baptême, Christ notre Dieu, nous avons été rendus par ta résurrection dignes de la vie immortelle. Avec des hymnes, nous te chantons, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'événement des rameaux, nous le connaissons tous. Il est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 12, versets 1 à 18. Ce qui est frappant dans cette lecture de l'événement des rameaux, c'est la manière étrange avec laquelle le roi prend possession de sa ville. Le roi qui est le Seigneur Jésus, assis sur le dos d'un ânon, marchant volontairement vers l'infâme supplice de la croix. Et nous assistons aussi à cette étrange explosion d'enthousiasme d'une foule qui, 5 jours plus tard, va crier « Crucifiez-le ». Cela nous demande réflexion, car nous entrons dans cet étrange dessein de Dieu, qui, dans son amour des hommes, change le cours de l'histoire, intervertissant même l'ordre logique des humains. La transfiguration qui précède la passion et la résurrection, la prise de possession de la Jérusalem céleste avant que l'heure n'arrive, l'onction du corps par Marie avant que la mort n'arrive sur la croix. Le Christ donc entre en roi dans la capitale de son royaume céleste. Lui qui tant de fois a fui la populace prête à l'acclamer comme Messie, le voilà qui accepte l'humble hommage de toutes ces personnes qui viennent le recevoir. Il est roi parce qu'il réunit en lui l'humanité tout entière, parce que par lui, l'homme et tous les hommes retrouveront leur état naturel d'avant le péché dans la sainteté initiale. C'est ce miracle-là qui construira la Jérusalem céleste, nouvelle capitale de l'humanité. Et puis, il y a les disciples, ceux qu'il a préparés, mais qui ne comprennent pas encore. Il leur faudra voir aujourd'hui, avant la dégradation et la passion, ce que sera la gloire de demain. Pour eux aussi, Jésus se montre en gloire, mais pour nous aussi, pour affirmer notre foi, relever nos doutes, renforcer certainement notre courage. Lorsque tout sera accompli, alors nous saurons que notre foi se fonde dans la résurrection. Le lundi, mardi et mercredi saint, le thème essentiel qui va se répéter pendant ces 3 jours est celui de la prière de l'époux. Je vous lis le texte. Voici que survient l'époux au milieu de la nuit. Heureux le serviteur qu'il trouvera éveillé, malheureux celui qu'il trouvera indolent. Vois donc, ô mon âme, ne te laisse pas vaincre par le sommeil. À la mort tu serais livré. Hors du royaume, tu serais rejeté, mais dégrise-toi et dis, Saint, Saint, Saint es-tu, ô Dieu, par la Mère de Dieu, aie pitié de nous. L'appel est évident, l'office de l'époux est l'office de la vigilance eschatologique. Tout notre être est invité à entrer dans une attitude d'ascèse, d'attention et d'éveil, dans l'attente de la venue pascale. Le Christ est symbolisé comme l'époux qui vient dans la nuit illuminer notre âme et l'exhorter à recevoir le royaume. Un autre grand thème fera aussi allusion au repas céleste auquel nous sommes conviés, à la compétition de revêtir notre âme d'un habit convenable. Je vois, chantons-nous, mon Sauveur, ta chambre nuptiale toute garnie, et je n'ai pas d'habit pour y entrer. Fais donc briller le vêtement de mon âme, ô donneur de lumière, et sauve-moi. Alors, comment mieux nous concentrer sur ce thème? Comment mieux comprendre cela? Eh bien, tout simplement en lisant un passage de Saint Basile le Grand qui nous montre combien il est nécessaire de nous connaître nous-mêmes si nous voulons vraiment atteindre la perfection, si nous voulons vraiment nous purifier. Écoutons ce texte. Fais attention à toi-même, c'est-à-dire fais attention non ce qui est à toi, non à ce qui t'entoure, mais à toi seul. Autre en effet ce que nous sommes, autre ce qui nous appartient, autre ce qui nous entoure. Nous sommes âme et esprit parce que nous sommes faits à l'image de notre Créateur. Nous appartiennent notre corps et les sens qui lui sont unis. Ce qui nous environne, c'est l'argent, notre métier et les autres biens de la vie. Que dit l'Écriture ? Ne porte pas attention à la chair et ne cherche pas à la gorger davantage, tels que santé, beauté, jouissance et longue vie. N'admire pas plus la richesse, la gloire ou la puissance. Ne juge pas grand et parfait tout ce qui comble ton existence terrestre, jusqu'à négliger par cet empressement ta vie principale. Oui, sois attentif à toi, c'est-à-dire à ton âme. Orne-la, soigne-la, repousse par le zèle de ton esprit toutes les souillures nées du mal. Que toute la turpitude de tes vies soit purifiée, que ton âme soit embellie et illuminée par la grâce de la vertu. Connais-toi toi-même, sache qui tu es, fais tout pour connaître ta propre nature. En effet, mortel est ton corps et ton âme immortelle. Ainsi notre vie est double. Ce qui en elle est charnel passe rapidement, l'autre part est familière à notre âme et n'a pas de fin. Sois donc attentif à toi. Ne t'attache pas à ce qui périt comme si c'était éternel. Ne méprise pas ce qui est éternel comme si c'était quelque chose de changeant. Considère la chair comme étant périssable et soin de ton âme immortelle. Voilà donc ce que nous dit Basile et combien ce texte peut nous éclairer pour vivre les célébrations des trois premiers jours de la semaine. Les trois premiers jours, nous entrons bien sûr dans le Jeudi Saint. Ce jour-là, nous faisons mémoire de la dernière scène où fut institué par le Christ l'Eucharistie. C'est en mémorial de la mort et de la résurrection du Sauveur que nous offrons le sacrifice non sanglant de la divine liturgie et que nous recevons l'Eucharistie en rémission de nos péchés et en gage de vie éternelle. L'office de la liturgie célébrée est celui de Saint Basile le Grand, combiné avec celui des Vêpres, où l'on mentionne la trahison de Judas, qui osa prendre part à ce dernier repas, alors que déjà il pensait trahir et livrer son maître. Voilà ce que nous disons à propos de Judas. En vérité, Judas est semblable à ceux qui mangèrent la manne dans le désert et murmurèrent contre leurs bienfaiteurs. Les ingrats avaient encore la nourriture dans la bouche qu'ils se plaignaient de Dieu. De même, Judas, le pain céleste à la bouche, préparait sa trahison contre le Sauveur. Ô cupidité, ô cruelle audace, il vend celui qui le nourrit, il livre à la mort son maître en lui donnant un baiser, il est vraiment de l'engeance des impies, il hérite avec eux la perdition. Mais toi, Seigneur, garde nos âmes d'une telle cruauté, toi dont la magnanimité est indicible. Au cours de cette liturgie de Saint Basile, au moment de la grande entrée, c'est-à-dire au moment où on va sortir avec les saints dons pour les déposer à l'autel, on chante aussi à la place de l'hymne des chérubins, l'hymne traditionnel des chérubins, dans l'Église orthodoxe, le texte suivant. À ta scène mystique, reçois-moi en ce jour, Fils de Dieu, car je ne révélerai pas tes mystères à tes ennemis, je ne te donnerai pas le baiser de Judas, mais comme le bon larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Et puis l'hymne à la Vierge, qui suit le moment de la consécration des saints dons, nous engage aussi à prendre part au repas du Seigneur. Venez fidèles, délectons-nous de l'hospitalité du Maître et du repas immortel préparé dans la chambre haute. Instruits par le verbe de son sens ultime, magnifions-le d'un esprit élevé. Rappelons aussi que ce jour-là, nous avons une autre célébration qui est celle du lavement des pieds. L'amour de prochain que nous enseigne le Seigneur par ce geste est avant tout, bien sûr, le sacrement du frère. Alors, pour rester dans la note de cette célébration, je voudrais vous lire une prière toujours composée par saint Basile le Grand dans l'une de ses homélies. Prie quand tu es assis à table. Rends grâce à celui qui te donne le pain que tu portes à la bouche. En réconfortant d'un verre de vin la faiblesse de ton corps, souviens-toi de celui qui te fait ce don pour la joie de ton cœur. Une fois satisfait ton besoin d'aliments, que le souvenir de ton bienfaiteur ne le soit pas. En enfilant ton vêtement, rends grâce à celui qui te le donne. Tu y ajoutes ton manteau, fais croître l'amour de Dieu. Quand le jour baisse, dis merci à celui qui fait briller le soleil pour éclairer ton travail durant la journée et le feu pour illuminer la nuit. Mais la nuit offre bien d'autres sujets de prière. Quand tu lèves ton regard vers la beauté du ciel étoilé, prie le Seigneur des choses visibles, adore l'artiste qui, en sa sagesse, a créé l'univers. Quand tu vois toute la nature animale plongée dans le sommeil, adore de nouveau celui qui, au moyen du sommeil, sans même que nous en soyons conscients, nous libère du poids de nos fatigues et qui, par un peu de repos, reconstitue la vigueur de nos forces. Par conséquent, que la nuit ne soit pas entièrement passée dans l'assoupissement. Le sommeil lui-même restera une pieuse méditation, car bien souvent, les rêves sont l'écho des préoccupations de notre journée. Tels sont les soucis de la vie, tels sont nos rêves. Prie donc sans relâche. Il n'est pas question de pratiquer la prière avec sans cesse des paroles sur les lèvres, mais de t'unir à Dieu en toute ta vie, et ta vie entière sera une prière continuelle et ininterrompue. Soir du jeudi saint, c'est-à-dire à l'office des matines du jour suivant, car la journée liturgique commence le soir à 18h, l'Église nous convie à l'office des saintes souffrances, celui de la Passion où sont lus les 12 textes tirés des 4 évangiles relatant les événements de la crucifixion de Jésus. Pas à pas, nous allons suivre le Christ sur le chemin de son calvaire, mais sa souffrance ne se fermera jamais sur elle-même et ne sera jamais dolorisme ou désespoir, car en effet, l'humiliation qu'il accepte de subir ainsi est volontaire et salvatrice. Ô douloureuse douceur du Christ qui met en cause tout homme et l'Église dans son aspect humain. Tel un athlète qui a vaillamment combattu, le Seigneur va se reposer dans le sépulcre en attendant le triomphe assuré et déjà proche, c'est-à-dire la résurrection. Lors de cette célébration, nous lisons les textes suivants. En ce jour est suspendu au gibet celui qui a suspendu la terre sur les eaux. Il est ceint d'une couronne d'épines, le roi des anges. On revêt d'une pourpre trompeuse celui qui lance le ciel autour des nuées. Il reçoit des soufflets, celui qui dans le Jourdain délivra Adam. Il est attaché avec des clous, l'époux de l'Église. Il est percé d'une lance, le fils de la Vierge. Nous adorons tes souffrances, ô Christ. Montre-nous aussi ta glorieuse résurrection. Et cet office des 12 évangiles se termine par ce tropère. Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi par ton sang précieux. Cloué à la croix et percé d'une lance, tu as fait jaillir l'immortalité pour les hommes. Ô notre Sauveur, gloire à toi. Et puis, bien sûr, le lendemain matin, c'est-à-dire le vendredi à l'office des Vêpres, on procède à la descente de la croix et à la mise au tombeau, et les lectures au cours de cette célébration sont bien sûr tirées et de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et puis on chante ce fameux tropère du noble Joseph. Le noble Joseph descendit du bois de la croix ton corps très pur, l'enveloppa d'un linceul immaculé et l'ensevelit avec des aromates dans un sépulcre neuf. En contemplant le Christ sur la croix, mort pour nos péchés, souvenons-nous de ces quelques lignes qu'a écrites saint Basile, si riches en pensées théologiques. Dans son obéissance jusqu'à la mort, le Christ est, comme l'exprime l'Écriture, la rédemption de nos fautes. Il est aussi notre libération de la mort due au péché qui régnait sur nous depuis les origines. Il est notre réconciliation avec Dieu. Le Christ est notre dynamisme pour vivre au plaisir de Dieu. Il est aussi don de justice, convivialité avec les saints dans la vie éternelle, héritage du royaume des cieux et récompense en d'innombrables autres biens. Il nous a d'autre part expliqué avec sagesse et force, par un enseignement joint à celui-ci, le sens de notre propre baptême d'eau, qui nous plonge dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre Paul, à son tour, nous instruit pour nous fortifier dans notre foi et pour que nous ne recevions pas en vain semblable et pareille grâce. Ne nous dit-il pas ceci que je vous rappelle ? Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel de manière à vous plier à ses convoitises. Offrez-vous à Dieu comme des vivants. Le samedi saint, c'est-à-dire le vendredi soir, puisque la journée commence le soir, nous célébrons, lors des matines, l'office dit de l'épitaphion, c'est-à-dire cet office où nous sommes devant le Christ au tombeau, et où l'Église, tout en se lamentant pour le Seigneur qui est mis au tombeau, en même temps attend enfin, avec une espérance peu commune et avec une certitude très forte, la résurrection. À travers les textes liturgiques qui sont lus ce soir-là et chantés, la descente aux enfers est perçue comme une blessure dans la plénitude divine, blessure dans laquelle s'engouffre toute la détresse, toute la révolte, tout le désespoir de ce monde qui abandonne Dieu et se sent abandonné par lui. Pour élever Adam déchu, le Christ doit aller le chercher jusque dans la mort, car tel est le sens de cette célébration. Dieu atteint la limite extrême de l'abaissement devant le néant des libertés déchues. Cet office de l'Epitaphios, composé en grande partie par une femme, la poétesse byzantine Cassia, développe trois thèmes. L'abaissement extrême de Dieu dans un contexte cosmique, la descente aux enfers et l'accomplissement du sabbat où l'Église naîtra du sommeil du Christ comme Ève naquit du sommeil d'Adam. Toi, la vie, tu as été mis au sépulcre au Christ et les armées des anges dans la stupeur glorifient ta condescendance. Il est juste de t'exalter, toi, source de vie. Tu as étendu les mains sur la croix et brisé la puissance de l'ennemi. Toutes les générations apportent leur hymne à ton sépulcre, ô mon Christ. Tu as, ô Vierge, libéré Adam du péché en engendrant le donateur de vie. Tu as d'Ève changé en joie la tristesse. Il a rendu à la vie ceux qui s'en étaient écartés. Celui qui, Dieu et homme, s'est incarné en toi. C'était là, bien sûr, quelques extraits des stances de l'épitaphe. Et puis, évidemment, comme nous ne pouvons pas rester dans ce temps de la descente aux enfers, déjà, à la fin de l'office, nous annoncerons la résurrection attendue. Et à l'office de la liturgie, le samedi matin, déjà, nous annonçons aussi la résurrection. Lève-toi, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Il s'agit, le samedi matin, de l'ancienne vigile pascale, qui est l'icône de la résurrection, celle de la descente victorieuse du Christ dans le royaume des enfers. Peut-être ici serait-il bon, pour terminer notre célébration, car après, bien sûr, nous tombons dans la réalité de Pâques et que nous allons commémorer dans 15 jours, peut-être serait-il bon de terminer ici avec un autre texte de Saint Basile, le Cantique des créatures. Si quelquefois, dans la sérénité d'une nuit, les yeux fascinés par l'indicible beauté des astres, tu as pensé à l'artisan de l'univers, si tu t'es demandé qui a brodé ces fleurs au firmament et donné aux choses une utilité plus grande encore que leur beauté, si pendant la journée tu as contemplé d'un esprit réfléchi les merveilles de la lumière du jour, si tu as cherché dans le visible une idée de l'invisible, tu es le digne auditeur qu'il nous convient d'adjoindre à notre magnifique et bienheureuse assemblée. Viens donc, comme on prend par la main et que l'on accompagne dans la ville ceux qui ne la connaissent pas, ainsi je vous guiderai et vous ferai découvrir les mystérieuses merveilles de cette grande cité qu'est l'univers. Dans cette cité, notre ancienne patrie, d'où nous a chassé le démon meurtrier qui, en le séduisant, a réduit l'homme en esclavage, tu verras l'origine première de l'homme et la mort qui s'est soudain emparée de nous. Cette mort est née du péché. Cette mort est la créature du démon, le maître du mal. Tu te connaîtras toi-même. Tu es terrestre par nature et cependant, tu es le chef-d'œuvre des mains de Dieu. Tu es doué d'une force de beaucoup inférieure à celle des animaux, et cependant tu es le maître incontestable de ces êtres sans âme. Certes, la nature t'a moins bien armé qu'eux, mais la supériorité de ta raison te fortifie puissamment pour t'élever jusqu'au ciel. Instruits par ces enseignements, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Nous connaîtrons Dieu et nous l'adorerons comme notre Créateur. Nous le servirons aussi comme notre Maître et le glorifierons comme notre Père. Nous le chérirons, lui qui nous donne la nourriture, et nous le magnifierons comme notre Bienfaiteur. Nous ne cesserons d'offrir nos adorations à l'auteur de notre vie présente et future. En effet, par les biens qu'il nous a procurés, il se porte garant des biens qu'il nous promet. L'expérience du présent nous confirme dans l'attente de l'avenir. Car si les biens matériels sont si importants, que seront les biens éternels? Et si les êtres visibles sont si beaux, quelle sera la splendeur des êtres invisibles? Si la grandeur du ciel dépasse la mesure de l'esprit humain, quelle intelligence pourra repérer la nature de ce qui est éternel? Si le soleil périssable est si beau, si grand, si rapide dans ses mouvements, si régulier dans sa rotation, d'une grandeur à ce point proportionnée au reste de l'univers, qui ne s'écarte pas d'un juste rapport avec l'ensemble de la création, et d'une beauté si étincelante qui fait de lui comme l'œil radieux de la nature qui embrase l'univers, quelle sera alors la beauté du soleil de justice, le Christ? Et si c'est un grand dommage pour l'aveugle de ne point voir le soleil, quel dommage ce sera pour le pécheur d'être privé de la lumière véritable. Et puis, des prières pour les enfants, et entre cela, des hymnes qui peuvent être chantés selon la tradition orthodoxe. Cet ouvrage désire d'une certaine manière préserver les valeurs de gratuité qui sont propres à l'orthodoxie, mais en même temps permettre, dans certaines conditions, une pratique rénovée, toute centrée et toute tournée sur la joie. Constatant que d'un vieux trésor il tire du neuf, comme il convient pour la louange d'un Dieu qui est jeune ensemble qu'éternel, cet ouvrage espère ainsi faire en sorte que, grâce à lui, le Seigneur, ainsi qu'il est dit fort justement au psautier 102, ne cesse de renouveler notre jeunesse. Je rappelle le titre de l'ouvrage, « Joie de ma jeunesse, petits offices et prières nouvelles à l'usage des parents, des jeunes et des enfants ». Et dans la foulée, l'archidiacre Denis, toujours aux éditions Diaconie Apostolique, propose aussi la traduction d'un office récemment composé par le moine Gérasim, hymnographe du patriarcat de Constantinople, propose donc la traduction en langue française d'un office en l'honneur du saint hiéromartyr Irénée, évêque de Lyon. Ces deux ouvrages, on peut les trouver dans toutes les librairies religieuses, mais aussi, si on le désire, en nous écrivant à notre adresse Orthodoxie, 23 rue de la Grande Armée, 13001 Marseille. Orthodoxie, 23 rue de la Grande Armée, 13001 à Marseille. Enfin, je vous rappelle aussi que notre prochaine émission aura lieu le 16 avril.